Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans D'une voix après l'autre, la série de podcasts de la Haute École Léonard de Vinci, qui vous raconte des projets qui tissent des liens, qui prennent soin de soi, des autres et du monde dans lequel on vit. Je suis Magali Vienne, et aujourd'hui nous passons un moment avec Mélissa Snowart et Audrey Desrosiers. Bonjour Mélissa.
Bonjour.
Bonjour Audrey.
Bonjour.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, dressons rapidement votre portrait. Audrey, vous êtes originaire du Québec, où vous avez d'abord suivi une formation en musique et théâtre, avant de vous tourner vers la zoothérapie en 2006. Vous êtes une pionnière dans ce domaine, puisque vous avez créé votre entreprise au bout du museau, alors que la profession en était encore à ses balbutiements. En 2019, vous avez créé votre propre clinique, et depuis 2020, vous proposez également des spécialisations professionnelles pour les acteurs du milieu de la santé et de l'éducation au Québec, mais aussi en Europe. C'est dans ce cadre que vous intervenez auprès du Centre de formation continue de la Haute École Léonard de Vinci, qui lance en octobre son premier certificat en zoothérapie.
Merci.
Vous avez également une chaîne de podcast intitulée « La révolution zoothérapeutique » qu'on peut retrouver notamment sur Spotify. Vous avez eu votre propre émission de TV au Québec et vous avez publié un premier livre en 2022 intitulé « Au bout du museau, la révolution zoothérapeutique ». Vous êtes aujourd'hui en Belgique pour promouvoir votre second ouvrage « Zoothérapie, l'animal, une révolution dans le domaine du soin » écrit à quatre mains avec Mélissa Snowart. Mélissa, vous êtes assistante en psychologie clinique et zoothérapeute. Vous avez obtenu votre diplôme de bachelier à la Haute École Léonard de Vinci en 2014. En 2017, vous êtes partie vous former à la thérapie assistée par l'animal à Montréal, auprès d'Audrey Desrosiers notamment. Vous avez travaillé en tant que pédopsychothérapeute dans des centres PMS avant de vous consacrer à la zoothérapie. En 2021, vous avez créé Anime-moi, où vous proposez des services de zoothérapie en séances individuelles ou de groupe, mais aussi des formations à destination des professionnels du secteur de la santé, de l'éducation et de l'aide aux personnes. Mélissa et Audrey, comment vous êtes-vous rencontrées et comment est née votre collaboration pour l'écriture du livre ?
C'était en 2019, lorsque je suis entrée dans la formation en zoothérapie. C'était un institut de formation appliquée en zoothérapie. Audrey Desrosiers, ici présente, était l'enseignante principale. Donc, notre rencontre s'est faite, en fait, dans un cours ordinaire. Moi, j'étais l'élève, elle était l'enseignante. Et donc, c'est principalement elle qui m'a appris tout ce que je sais aujourd'hui sur la zoothérapie. C'est comme ça que ça a commencé. Si je peux raconter peut-être une petite histoire un peu touchante. Lors du dernier week-end intensif à la ferme pédagogique, on avait un exercice, on devait, avec de l'argile, créer un objet qui représentait notre force en termes de professionnel, futur professionnel. Mais forcément, la vie privée puis le professionnel, ça se rejoint, ça se recoupe assez souvent. Donc c'était vraiment l'idée, quelque chose qui nous porte, puis qu'on pouvait installer sur notre bureau pour préparer nos futures interventions de zoothérapie. Et j'ai réfléchi. Bref, j'ai fini par avoir l'idée de la clé. La clé, pour moi, c'était un symbole de... Ben, on a tous les clés en soi pour y arriver. Et voilà, il y a une histoire personnelle où Audrey m'a prêté ses clés. Et moi, c'était un symbole très, très fort parce qu'en fait, en Belgique, on est, je pense, plus réticents qu'au Québec. On ne donne pas facilement les clés de chez soi. Et là-bas, il y avait vraiment cette ouverture d'esprit. En tout cas, avec Audrey, j'ai vraiment retrouvé ça. Elle m'a donné ses clés hyper intuitivement. Elle venait de me rencontrer parce que j'avais besoin d'emprunter ces animaux pour faire mes séances de zoothérapie lors de mes stages. J'étais tellement fière d'avoir les clés de la prof en main. C'était vraiment drôle. Et donc, j'ai partagé cette histoire-là en fin de parcours en disant, ben voilà, tu m'as donné cette confiance-là. Je trouve ça très beau. Et puis, j'ai fini par lui dire, j'aurais le goût qu'on soit amis. Et après mon feedback et mon intervention, Audrey prenait toujours un temps pour répondre. Et lors de sa réponse, elle m'a dit, mais oui, on va être amis, c'est OK. Et donc, c'est de là qu'est née notre amitié. Puis, je suis rentrée en Belgique et... La suite, vous la connaissez.
Et donc, pour conclure, la petite histoire touchante, ça en est devenu aussi un tatou qu'on a en commun. Et chaque maison que j'ai habitée depuis, elle a toujours eu mes clés de maison. Parce que c'est un symbole assez fort, je pense aussi, de dire, ben, tu auras toujours un chez-toi, peu importe ce qui arrive, n'importe où dans le monde où je serai. Donc, notre lien, dès le départ, était très, très, très fort. Donc, ça a été une rencontre de cœur à la base. Ensuite, Mélissa devait rester au Québec, mais il est arrivé ce truc, le COVID, et donc elle a dû rentrer. Et en fait, on voulait absolument faire quelque chose ensemble, on pensait le faire au Québec. Et j'ai dit, ben allez, on le fait chez toi. Moi, je vais venir, on va le faire. Et voilà, on a commencé notre formation privée et est né le livre, voilà.
Ouais, donc c'est un beau symbole d'amitié, ce livre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Mélissa, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la zoothérapie telle qu'elle est pratiquée en Belgique ?
Alors, la zoothérapie que moi je pratique en Belgique, c'est vraiment la zoothérapie que j'ai apprise au Québec. Et donc, c'est de la thérapie assistée par l'animal. L'animal fait partie intégrante de mes séances, de mes interventions. On me nomme souvent psychothérapeute, mais l'idée, c'est que je ne vais jamais seule rencontrer mes patients. L'animal est toujours là. Je prépare toutes mes séances avec l'animal. On utilise beaucoup d'outils, beaucoup de jeux. Il y a toujours des objectifs thérapeutiques concrets qui sont travaillés puis préparés. Ça, c'est vraiment la zoothérapie comme moi je l'ai apprise. L'animal est donc sélectionné en fonction de ce que je vais travailler cette journée-là avec ce patient-là. Ce qu'on connaît plus communément en Belgique, c'est plutôt la médiation animale. Ça, c'est un terme quand même courant depuis plusieurs années. La médiation animale, c'est la présence de l'animal comme média. Donc, l'animal est également là, mais il n'y a pas toujours des objectifs thérapeutiques précis. C'est plutôt une rencontre. L'animal sert à briser l'isolement, sert à rendre plus confortable, à un mieux-être, parce qu'on le sait, en présence d'un animal, il y a déjà des choses physiologiquement qui se passent dans notre corps où on se sent mieux. Donc ça, c'est un fait, c'est scientifique, c'est prouvé. Mais c'est ça, il n'y a pas forcément tout le travail aussi sur du long terme avec l'élaboration d'un plan d'intervention thérapeutique avec les objectifs court, moyen, long terme. C'est ça, c'est comme quelque chose de plus ponctuel. Ça se fait aussi souvent en groupe. Nous, on appelle ça au Québec, en tout cas, vous aurez compris, de la zoo-animation. Donc ça, c'est vraiment des animations en groupe. Là, il peut parfois y avoir un objectif thérapeutique, mais ça va être un objectif à tout le groupe, parce que forcément, on ne travaille pas les mêmes choses quand on est face à 10 personnes, plutôt qu'en un pour un. Je dirais que c'est un peu ça, les grandes différences.
Ouais. Ok, et j'allais demander justement si ça se pratiquait de la même manière au Québec, et quelles étaient la différence entre le Québec et la Belgique.
Ben, je crois que Mélissa a bien déjà répondu. C'est la particularité de notre livre puis de notre formation qu'on va offrir ici. C'est qu'on va vraiment départager. Puis il fallait faire un peu le ménage de justement tous ces termes-là dans le livre. Qu'est-ce que la médiation? Qu'est-ce que la zoothérapie? Qu'est-ce que la zooanimation? Qu'est-ce que la zoopédagogie? Qu'est-ce que la zoothérapie équine? Il y a plein de définitions comme ça. Mais c'est ça, la grande différence, c'est la collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire. Nous, on dit multidisciplinaire au Québec, mais vous dites pluri ici. C'est vraiment l'alliance, en fait, de tous ces professionnels-là, ergothérapeutes, logopèdes, neuropsy, pédopsy, enseignantes, parents. On s'assoit autour d'une même table concernant un enfant, un adulte, une personne âgée, peu importe c'est qui la patientèle, et on met tous nos cerveaux et nos savoirs et nos lunettes différentes au service de ce patient-là pour vraiment le faire évoluer le plus complet. Je ne sais pas comment dire ça, mais on va tous travailler dans le même sens. Et souvent, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en zoothérapie, on a, par la présence de l'animal, puis par notre façon d'intervenir, parce que c'est pas encore un autre professionnel qui arrive. En fait, on n'est pas perçu de la même façon que les autres professionnels grâce à l'animal. Il y a des choses qui débloquent, il y a des choses qui sont dites, il y a des avancements, des pas de géant qui sont faits de par la présence de l'animal. Ce qui est important aussi de mentionner, c'est que, puis tu sais, on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, là. Tu vois passer une photo, quelqu'un flatte son chat. Oh, mon chien me fait de la zoothérapie. Ben non, c'est pas de la zoothérapie. Pour avoir de la zoothérapie, ça prend un zoothérapeute formé. Donc, c'est ça, il y a des avancées absolument incroyables de par la présence de l'animal. Et donc, de mettre ça en commun, par exemple, avec une travailleuse sociale, une éducatrice spécialisée, une enseignante, moi, je vais avoir des résultats qu'elle n'a jamais vus. Donc, en fait, le patient est capable de faire XY puisqu'il l'a fait en zoothérapie. Je pense, par exemple, à une petite cocotte polyhandicapée qui avait une encéphalo, donc tête très, très lourde pour son petit corps, puis elle n'avait pas les muscles suffisamment développés. On travaillait en physiothérapie. Vous dites physiothérapie ou kiné, peut-être, c'est? Donc, le travail de la kiné, c'était de la mettre au sol, sur le ventre. Puis, la petite devait travailler ses muscles pour tenter de relever sa tête. Et c'est pour ça que c'est tellement riche de travailler avec les autres professionnels. Donc, je suis avec elle, puis j'ai mon lapin cette journée-là. Donc, en kiné, la petite fait 5-6 secondes, puis après, elle relâche. Tu sais, c'est déjà beau. C'est très demandant pour elle musculairement. Et moi, j'arrive, j'ai le lapin devant elle. Elle est au sol, le lapin aussi. Le lapin se promène, il vient donner des petits bisous, il sautille un peu. Et la petite, parce qu'elle veut voir le lapin, elle a tenu sa tête presque une minute. Donc, il y avait de la poursuite visuelle, il y avait... Puis la kiné, ben, la physio, là, dans mon cas, elle n'en revenait pas. Elle était comme, mais elle ne me donne jamais ça aussi longtemps. Donc, il y a un réel avantage vraiment significatif de travailler en pluridisciplinaire.
Oui, parce que là, elle n'avait pas l'impression de travailler, en fait. Là, exact. Elle jouait avec...
C'est ça. Donc, mais c'est hyper important, puis c'est tellement nourrissant quand les autres professionnels sont là autour pour te donner ce feedback-là. Parce qu'elle la connaissait, elle la voyait chaque semaine, une demi-heure. Donc, elle a un historique avec elle, ce que moi, je n'ai pas. Donc, moi, ce que je vois, c'est la petite qui se redresse, ça va bien, elle a fait une minute avec le lapin. Donc, aussi, la zoothérapie, ce que j'essaie aussi de dire, c'est qu'on a besoin de cette collaboration-là, donc d'intervention multidisciplinaire, live sur le plancher, mais aussi que ce soit quantifiable, mesurable. Parce que c'est ça qui fait que c'est un réel métier, dans le fond, parce qu'on peut mesurer les avancées ou sinon le maintien. Si on parle de, par exemple, la démence d'Alzheimer, il n'y aura pas d'amélioration, tu sais, c'est une démence. Mais au moins le maintien des capacités cognitives. Donc, c'est quantifiable puis c'est mesurable.
Et Mélissa, en Belgique, tu as l'occasion de déjà travailler aussi avec autant de professionnels ou c'est pas encore aussi développé qu'au Québec?
Non, ça se développe vraiment bien. Moi, j'impose un peu ça quelque part. Donc, quand je reçois de la patientèle pour la première fois, je réalise ce qu'on appelle l'anamnèse sociale avec le ou les parents ou le demandeur de zoothérapie. Et je demande également que l'enfant soit présent pour aussi raconter comment lui se sent, ce que lui, il aimerait travailler. Je demande toujours s'il y a déjà eu des bilans, comment ça se passe à l'école. Je demande à recevoir le nom de l'école, le nom de l'enseignant. Je demande également à avoir le nom des professionnels, l'autorisation de les contacter, parce que quand je suis face à une difficulté, j'ai besoin de pouvoir collaborer avec ces partenaires-là. Ils connaissent l'enfant depuis souvent plus longtemps que moi, puisque souvent, je ne sais pas si on l'a déjà mentionné, mais la zoothérapie, c'est comme le dernier maillon de l'échelle. Souvent, tout a déjà essayé, tout le monde est désespéré, puis la zoothérapie, on vient chez nous, puis ça fonctionne. Donc, c'est assez chouette, mais il y a souvent des intervenants extérieurs. Les parents sont hyper collaborants, bien souvent j'ai l'autorisation. Donc ça m'est régulièrement arrivé d'être en contact avec la neuropsy, avec la logo, avec l'enseignante. J'ai aussi cette casquette d'auxiliaire psychopédagogique en PMS. Donc le pluridisciplinaire, c'est déjà quelque chose qui me parle et qui fait du sens. Souvent quand on est en train de se questionner autour d'un enfant, ce qui résout vraiment et ce qui permet d'avancer dans la situation, c'est de se mettre tous autour de la table. On va inviter la psy, on va inviter la neuropsy, on va inviter tout le monde et on discute. C'est intéressant parce que parfois, quelqu'un décrit l'enfant et puis ça nous fait « en fait, moi, je ne connais pas du tout cet enfant-là ». Mais c'est ça qui est riche, c'est ça qui est intéressant. Et c'est là qu'on dégage des pistes concrètes de travail. C'est tous ensemble qu'on permet que l'enfant aille mieux. Je parle beaucoup des enfants puisque c'est ma clientèle de prédilection, enfants-adolescents.
Oui, justement, toutes les deux, j'ai l'impression que vous êtes plus sur une clientèle enfant-adolescent, mais on est d'accord que la zoothérapie, c'est possible pour l'ensemble du public, pas uniquement pour les enfants et les ados.
En fait, je suis aussi spécialisée en francisation, donc, et pour les enfants, mais et pour les adultes aussi. Donc, c'est la ville de Montréal qui me paie pour ça depuis 10 ans. Donc, c'est une clientèle migrantes ou réfugiés qui n'ont ni le français ni l'anglais comme langue ni première ni seconde. Donc, c'est des grands défis. Ils arrivent avec des gros bagages de vie. Donc, la zoothérapie est une façon plus légère, facile, sécurisante parfois d'apprendre le français. Chacun a un rapport différent aussi aux animaux, de par leur parcours, bien sûr. Je travaille aussi avec les femmes en dépression. J'ai travaillé dans un centre de femmes en situation d'itinérance, un problème de consommation, toxicomanie, santé mentale, beaucoup de Premières Nations. J'ai beaucoup d'enfants, mais oui, moi aussi, je suis spécialisée enfants et adolescents. Mais j'ai aussi, depuis 10 ans, une collaboration spéciale avec un centre avec qui, un centre de gérontologie, on va essayer de faire cette recherche-là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de recherches en français sur la zoothérapie. Il y en a pléthore en anglais, mais après, pour faire les recherches, ça prend les fonds. Donc, on est à l'étape de la recherche de fonds. Pour justement la démence d'Alzheimer soutenue par en zoothérapie, parce que ça fait vraiment des merveilles, en fait. Mon public, à la base, mon tout premier public, c'était le langage, mais le polyhandicap sévère, donc et moteur et cognitif. Donc, je pense qu'ici, vous avez surtout connu avec le TSA, avec les enfants autistes. Puis c'est souvent les enfants. Mon point, c'est le constat, en fait, que je fais au Québec. C'est peut-être le même constat qu'on a ici. C'est mignon, les enfants. Il y a beaucoup de budget pour les enfants. Mais souvent, selon le diagnostic, à partir de 18 ans ou 21 ans, ils tombent un peu dans un espèce de trou noir, j'appelle, parce qu'on... On s'est assuré de les faire fonctionner dans une structure, dans un cadre, de les rendre le plus fonctionnel possible. Mais en fait, à 21 ans, on te retourne chez toi, les parents sont démunis, il n'y a pas de ressources, il n'y arrive plus rien. Donc, si tu n'es pas apte à aller sur un plateau de travail, nous, c'est comme ça qu'on appelle ça, mais vous savez, pour quand tu as trisomie 21, déficience intellectuelle légère ou TSA, tu peux aller travailler, un travail adapté. Il y a des structures qui ont des financements pour les engager. Donc, si tu n'es pas apte à aller là, ben en fait, tu es confiné chez toi. Donc, c'est un peu dommage. Donc, il y a cette espèce de gap-là vers lequel je veux un peu m'adresser parce que les besoins continuent. Ils ont besoin de continuer d'être stimulés, de continuer de travailler des choses. Donc, mais oui, ça s'adresse à vraiment une très, très large clientèle.
Et donc, si je comprends bien, dans le suivi zoothérapeutique, il y a toujours au moins 3 acteurs. Il y a le thérapeute, il y a le bénéficiaire et il y a l'animal. Comment vous faites pour vous assurer du bien-être de l'animal, qu'il soit vraiment considéré comme un partenaire et pas juste comme un outil de travail?
C'est une très bonne question. C'est essentiel de veiller au bien-être des animaux. Récemment, j'ai réalisé que ce n'est pas juste le bien-être animal, parce que c'est un peu comme la bienveillance. C'est un mot qui veut tout et rien dire. On peut mettre plein de choses dedans. C'est vraiment veiller à répondre aux besoins de nos partenaires et donc de nos animaux, autant qu'on veillerait à répondre à nos propres besoins. On dit souvent, pour être un bon psychothérapeute ou un psychologue, il faut avoir soi-même un suivi, pouvoir se faire aider, se faire guider, connaître ses limites, ses besoins, qu'est-ce qui nous déclenche. Mais quelque part, que nous, on connaisse les besoins de l'animal, qu'on le laisse être un animal avant tout, à son état naturel, c'est essentiel pour nous. Il y a souvent une confusion qui se fait entre des animaux de zoothérapie ou des animaux d'assistance. Les animaux d'assistance, ben voilà, je ne m'y connais pas plus que ça, en termes d'éducation, mais je pense qu'il y a tout un protocole à suivre et on demande à l'animal de ne pas avoir certains comportements pour pouvoir répondre au mieux aux besoins de son maître, qui a des besoins comme par exemple les personnes qui ne voient plus, les personnes aveugles. Mais donc ici, on insiste vraiment sur le fait que non, nous, l'animal, on le veut dans son entier, on le veut dans sa personnalité, dans son côté joueur, dans son côté fatigué, on aime tout de l'animal. Mais par contre, c'est sûr qu'on ne peut pas choisir n'importe qui. Tous les animaux ne sont pas forcément des bons candidats à la zoothérapie. Je pense par exemple, l'exemple le plus classique, c'est un animal qui, de par sa génétique ou de par certains traumatismes, est super méfiant de l'être humain, n'a pas envie de venir près de l'humain, n'a pas envie de se faire caresser par l'humain. Évidemment, on ne va pas le mettre sur les genoux d'une personne âgée puis le forcer à se faire flatter, ce serait de la maltraitance. Mais par contre, il y a tout le travail de désensibilisation. Donc c'est ça, un animal n'est pas éduqué comme un chien d'assistance à certains comportements types, mais va être désensibilisé. Donc l'idée, c'est vraiment de le rendre calme, serein, déstressé face à toute situation et toute stimulation. Donc je pense par exemple à un gros bruit qui survient auquel on ne s'attend pas, ben même nous on peut parfois être saisi. L'idée c'est que l'animal, malgré un bruit ou quelque chose qui bouge ou quelqu'un qui toque à la porte, ben il soit toujours serein et confortable et que ça ne soit pas chaque fois un événement stressant pour lui. On veut vraiment que l'animal ait du plaisir dans la zoothérapie. Et moi, ce que j'observe avec mes 2 lapins et mon chien, c'est qu'ils adorent venir avec moi. Mais c'est ça, quand le chien a besoin d'une pause, quand le lapin a besoin d'aller s'isoler, de retrouver son compagnon, tout ça, c'est possible. Donc, j'installe ma salle, c'est toute une préparation, la zoothérapie. On vient avec aussi la litière du lapin, on vient avec le transporteur, la couverture du chien, on vient avec les os, on vient avec les balles, parce que le chien a besoin de se détendre, d'avoir des jeux de stimulation entre les séances. Il faut prévoir ce temps de latence entre les patients. Faut aussi penser aux balades avant, pendant, après. En tout cas, il y a toute une gestion autour de ça, mais c'est vraiment essentiel. Et donc, nous, par exemple, dans nos formations, on a vraiment un point d'honneur à former les gens avec une bonne base concrète de connaissance de l'éthologie de l'animal. D'ailleurs, il y a David Bertrand cette année qui nous rejoint pour le certificat officiel, qui est éthologue de formation et qui connaît un tas de choses sur les animaux, qui va pouvoir vraiment donner ça en plus par rapport à des animaux que nous, on ne connaît pas forcément, avec lesquels on ne travaille pas, mais qui sont des partenaires potentiels. Donc, c'est ça, connaître... Par exemple, aussi un exemple très concret, que ce soit les lapins ou les chevaux, ce sont des animaux grégaires. Ça veut dire que c'est des animaux qui ont besoin de leurs compagnons pour être heureux, pour répondre à leurs besoins, pour se réassurer. Donc en fait, on ne s'en rend pas compte parce qu'en animalerie, ben, on vend des cages et on vend des lapins seuls. C'est tout à fait autorisé.
Je fais juste une parenthèse, qu'au Québec, c'est rendu illégal depuis plusieurs années de vendre des animaux en animalerie.
Ouais. Et je pense même qu'on ne peut plus acheter un seul lapin, il faut en acheter deux. Mais c'est essentiel. Et en fait, toutes ces infos-là, on ne les communique pas. Voilà, il y a peut-être d'autres raisons dans la société actuelle. On ne va pas s'étendre là-dessus. Mais donc, c'est ça. C'est important de savoir ça. Ben non, en fait, les lapins ne vivent pas en cage. Les lapins qui vivent en cage, ils développent des troubles du comportement. Ils deviennent agressifs. Autour de vous, demandez qui n'a pas été mordu par un lapin. Mais je vous assure, quand vos lapins vivent en répondant à leurs besoins, en semi-liberté, en liberté avec un compagnon, en ayant des friandises, de la douceur et qui sont manipulées régulièrement, j'ai jamais un de mes lapins qui m'a mordu. C'est jamais arrivé en plusieurs années. Donc, ouais, c'est important de répondre aux besoins et de veiller à leur bien-être.
Et justement, tout à l'heure, vous disiez que vous choisissiez les animaux pour répondre aussi à certains objectifs pour la thérapie. Comment justement vous choisissez quel animal vous allez prendre avec vous pour tel bénéficiaire ?
Moi, je dirais que ça dépend vraiment de l'objectif qui va être travaillé. On n'a pas toujours un objectif. Donc, par patient, il y a, on va dire, 4-5 objectifs. C'est aussi dans la continuité du travail, du suivi. Et donc, en fait... Pour chaque animal, on ne va pas toujours utiliser le même outil, le même jeu, puis le même matériel. On a par exemple le manteau d'intervention qui est comme une cape avec des scratchs sur le chien. Ben, ce n'est pas qu'on ne peut pas l'utiliser sur le lapin, mais le lapin a un corps complètement différent, il fait des bonds. Il faudrait un modèle très 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 réduit. Par contre, il existe par exemple des petits harnais sur lesquels on peut confectionner une espèce de petite poche comme un petit sac qui pourrait tout à fait fonctionner si on désensibilise son lapin au port du harnais, il peut être tout à fait confortable là-dedans. Donc, c'est une autre manière d'adapter le matériel. On prend aussi les comportements de l'animal au naturel. Les lapins, ils sont curieux, ils se mettent sur leurs deux pattes arrière, ils vont sentir, ils vont être curieux. Donc, avec un lapin, j'amène une corde, j'amène des pinces à linge, je mets le matériel. Je travaille beaucoup les difficultés d'endormissement, les rituels avant d'aller faire dodo, parce que c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup, beaucoup dans ma patientèle. Et donc, j'ai un outil qui s'appelle Oli Lewisity, ou kit de discussion bien-être pour aller au lit. Et donc, je sélectionne, évidemment, j'amène juste pas le jeu comme ça, je sélectionne les cartes parce que j'ai déjà ciblé qu'est-ce que l'enfant pourrait avoir du mal à travailler ou aurait besoin de travailler ou va comme adhérer à ce que je propose. Donc voilà, il y a vraiment toute une stratégie derrière ça. Je sélectionne les cartes, je mets la pince à linge et je mets des friandises différentes pour le lapin. Donc le lapin va venir naturellement sélectionner la carte avec la friandise. En fait, clairement, il ne sait pas lire le lapin, mais il sélectionne la friandise. Oh, le lapin choisit ça. Tiens, est-ce que toi, tu te reconnais à travers ça ? Est-ce qu'on essaye ? Viens, on le fait ensemble. Viens, on prend le lapin sur nous, on va le faire avec le lapin. Donc, en fonction de ce que je prépare, ben, le lapin va être intégré automatiquement, pas automatiquement, mais de façon permanente, je vais dire, dans la séance. Au contraire, si j'ai besoin qu'on travaille l'impulsivité chez un enfant qui souffre d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, je vais choisir mon chien qui est très, très, très énergique et qui peut vraiment faire un vrai effet miroir avec cette clientèle-là. Mais qui peut aussi, quand on lui dit stop, respecter la bulle, s'arrêter, on doit attendre. Mais le chien est tout aussi impatient que l'enfant. Donc, il faut d'abord arriver à dire au chien, puis en tout cas, les enfants sont capables d'attendre, de respecter les consignes. Donc voilà, je sélectionne vraiment l'animal en fonction des objectifs qu'on va pouvoir travailler ensemble.
Peut-être pour donner deux autres exemples avec d'autres animaux. Je travaillais avec un hérisson, parce qu'au Québec, c'est possible, c'est un animal domestique. Et je travaillais aussi avec des tourterelles rieuses. Donc, il faut savoir qu'il y a des tourterelles tristes, donc c'est le son des tourterelles qu'on connaît. Mais les tourterelles rieuses, là, je vais vous faire une petite imitation. Les tourterelles rieuses rient, littéralement. Donc, ça fait... Donc, c'est surprenant. Et puis, le mâle rit beaucoup plus que la femelle. Donc, j'ai trois mâles. Et avec un ado qui n'est pas dans son corps, on travaille les sensations physiques des émotions. Parce que souvent, les émotions, ça reste très cérébral. Donc, quand tu as mal au ventre, quand tu as une boule dans l'estomac, tu sais, tout le deuxième degré. Et donc, on a la tourterelle, puis il faut prendre des positions, garder la position, puis essayer de voir, on se sent comme... Puis la tourterelle est sur ton épaule, puis l'autre est sur ta tête. Puis tu sais, la tourterelle, il faut que tu la manipules avec beaucoup de soin. En fait, la règle, moi, je fais toujours flatter à un doigt, parce que faut être délicat. Mais c'est quand même assez rare qu'on a la chance de flatter une tourterelle d'aussi proche. Mais la tourterelle aussi, il faut la laisser s'envoler quand elle décide. Donc, on est dans un local fermé, c'est sécurisé. Donc, il y a une question aussi de respect des limites, du respect du consentement avec les ados qui est super intéressant à aborder. Je travaille aussi beaucoup avec les troubles d'attachement, anxiété, colère, parce que c'est mal, les petites filles en colère. Je ne sais pas ici, mais...
Ici aussi, ouais. C'est mal, les petites filles en colère.
J'aime beaucoup les petites filles en colère. Et donc, avec le hérisson, parce qu'en fait, il faut savoir, le hérisson, ça rentre dans la paume d'une main. Là. C'est pas gros comme un porc-épic. C'est tout petit, c'est plus petit que mon téléphone. Là. Et en fait, quand tu réveilles le hérisson vit de nuit. Donc, il faut l'utiliser. Quand on disait tantôt le bien-être animal, j'utilise pas mon hérisson trop souvent parce que tu veux pas dérégler, en fait, son cycle circadien. Mais donc, quelquefois, quand je réveille le hérisson, ça se réveille, puis ça fait une espèce de petit son pas content, puis ça a les aiguilles dans les airs. Et donc, on fait le lien avec, toi, est-ce que ça t'arrive des fois d'avoir des comportements repoussants? Parce que c'est ça qu'on fait quand on pique des colères, c'est qu'on fait dégager les autres. Il y a ce livre magnifique qui s'appelle « Hérisson dans le bedon », avec lequel je travaille. J'ai fait un certificat en littérature jeunesse aussi. Parce que ça s'amalgame tellement bien. Il y a des œuvres absolument extraordinaires aujourd'hui pour les jeunes. Et donc là, t'as un hérisson dans le bedon, la petite fille fait des colères dans l'histoire, puis t'as un hérisson dans ta main qui, visiblement, est en colère. Et donc, en fait, puis ça, c'est un truc. Tu sais, c'est arrangé avec le gars des vues, c'est comme ça on dit au Québec. Donc, j'arrive avec une baignoire de bébé portative qu'on remplit d'eau tiède, un peu chaude. Et il faut savoir que le hérisson, c'est un nageur olympique. Donc, quand on met le hérisson dans l'eau, il se met à nager. Il est heureux. Et en fait, il ne peut pas avoir ses pics levés quand il est en train de nager. Donc, quand on le sort de l'eau, premièrement, il veut venir se lever contre nous. Il veut se faire sécher. Il se secoue. C'est très drôle. Et seulement là, à ce moment-là, on peut flatter ses aiguilles parce qu'elles ne sont plus dressées. Donc, c'est intéressant aussi de voir, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi qui va faire en sorte que tu vas, toi, abaisser tes aiguilles, tu sais. Donc, le pouvoir de miroir, en fait, c'est plus efficace ça que si j'avais essayé de lui expliquer la théorie, en fait.
Mm-hmm. Ouais. Oui, là, elle le voit directement.
Voilà.
Audrey, vous êtes en Belgique actuellement pour deux raisons. La première, c'est la sortie de votre livre, écrit à quatre mains. La seconde, c'est l'ouverture d'un certificat en zoothérapie et médiation animale au centre de formation continue, on l'a dit. Avant ça, vous aviez aussi proposé un module de médiation animale et zooanimation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement ce qui différencie les deux formations?
Bien sûr. Le volet 1, qui est donné chaque année en mai, ce sera, je crois, notre troisième année cette année. Beaucoup de demandes. D'ailleurs, il va peut-être falloir faire un deuxième groupe. C'est vraiment pour avoir les bases et pouvoir faire de la médiation animale. Donc, c'est pas de la zoothérapie. Donc, c'est vraiment comme une introduction. C'est drôle parce que hier soir, justement, c'était le lancement de notre livre et le lancement du certificat. Et on a vu, en fait, des participantes qui étaient au volet 1 en mai dernier qui, là, sont très contentes de pouvoir s'inscrire au volet qui te permet, en fait, d'avoir le titre de zoothérapeute. En fait, la différence, c'est ça, c'est que c'est vraiment un 15 heures, c'est une introduction, c'est un volet 1 qui te permet de faire de la médiation. Donc, on n'est vraiment pas dans la collaboration avec les autres professionnels, la rédaction de rapports, l'élaboration d'une prise en charge thérapeutique. C'est vraiment pour faire de l'animation. Donc, ce sont aussi toutes des professions, je dis au féminin, hein, parce qu'on sait que le soin, le care, c'est souvent les femmes. Donc, c'est tous des professionnels, donc logopèdes, ergo, mais qui veulent déjà s'essayer puis faire des animations. Je pense, par exemple, j'ai adapté récemment des programmes pour femmes, santé mentale, dépression, anxiété, les émotions, tout ce qui est aussi pour les ados, l'équivalent de l'école secondaire, je ne sais pas c'est quoi ici, le lycée peut-être? École secondaire. Donc, tout ce qui est les ateliers prévention, des drogues, des saines habitudes de vie, le harcèlement. Donc, c'est tous des programmes qu'on adapte, mais qui se font super bien en médiation. Donc, tu es dans un groupe classe, puis on aborde, on passe ta théorie, puis pour la fin ou deux, trois exercices, on le fait accompagné par le chien. Donc, ça rend ça plus ludique, ça garde un peu l'intérêt des jeunes. Donc, ça, c'est vraiment le volet 1, c'est médiateur. Et donc, le volet, j'allais dire le volet 2, mais en fait, le certificat complet, c'est vraiment pour devenir zoothérapeute. Donc, on voit vraiment plusieurs clientèles, on va sur le terrain, c'est vraiment un certificat pratique. Donc, tu pratiques avec plusieurs animaux, on t'apprend le renforcement positif et on t'apprend la théorie de la zoothérapie appliquée et on t'amène sur le terrain avec plusieurs clientèles, avec plusieurs animaux. Donc, c'est vraiment là le complet. En plus, avec David, l'éthologie, avec Valentine Ancio, Anastasia Blaise, qui sont spécialistes chacune de leur clientèle. Donc, c'est vraiment le cours complet, quoi.
Et en termes d'heures, le certificat, il fait...
Si je ne me trompe pas, 160.
Donc, vous vous êtes rencontrés, on a dit, au Québec. Et avant d'écrire le livre, vous aviez d'abord lancé d'autres formations, notamment en privé. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler?
Oui. Donc, c'est né d'une rencontre avec Véronique Engens, une psychologue du côté de Liège, qui me entend mon parcours à la pause d'une formation sur la communication intuitive. On ne va pas en parler ici, ce n'est pas la zoothérapie. Et elle vient me trouver en disant « Waouh, mais si tu nous ramènes ce que tu as appris au Québec, moi je m'inscris à ta formation. » Mais moi, je n'ai jamais enseigné toute ma vie, donc c'était un peu surprenant comme question puis comme intention. Mais ça a mis une petite graine quand même, ça a planté la graine. En fait, c'est ça, j'avais entendu parler de certaines formations en zoothérapie en Belgique, mais qui correspondent pas forcément à ce que j'ai appris au Québec, qui ne sont pas toujours respectueuses non plus du bien-être animal. Donc moi, quand elle m'a raconté certaines choses de son expérience à elle, elle m'a dit « ce que toi, tu as appris, c'est ça qui me parle, c'est les valeurs que je veux retrouver ». Et donc, j'en parle avec mon amie Audrey. Je dis, comment est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on fait? C'est intéressant ce qu'elle me dit, la Véronique. Puis Audrey, ça va toujours vite, les idées, il ne faut pas 5 secondes. Et donc, elle me dit, on va le faire et puis je vais venir. Ça va être plus simple. Donc, chaque année, je vais venir une ou deux fois par an. Puis on va organiser la formation. C'est comme ça qu'est née notre formation.
En fait, moi, depuis 10 ans, j'offre une spécialisation aux professionnels parce que ça m'était demandé. J'enseignais donc dans des instituts privés. Mais les professionnels du milieu depuis 10 ans me disaient « Audrey, il faut que tu développes une spécialisation pour nous. » Donc, c'est ce que je fais depuis 10 ans au Québec, donc 2 fois par année. J'ai dit à Mélissa, on l'a déjà, la formation. Donc, parce que la zoothérapie est un petit peu plus au début de l'émergence ici. Donc, on a réfléchi ensemble une formation plus complète, plus longue. La différence peut-être entre la formation de Vinci diplômante et notre formation privée. Notre formation privée est plus condensée parce qu'il y en a qui veulent faire ça plus rapidement. Autant en Belgique qu'au Québec, un diplôme, le nôtre ou celui, il n'est pas mieux qu'un autre. Ça fait 30 ans qu'il y a de la zoothérapie au Québec. Il y a plusieurs écoles privées. Il y a aussi quelques formations reconnues par le gouvernement. Le point qui est hyper important, ce sur quoi il faut vraiment travailler, c'est d'avoir un diplôme, peu importe c'est lequel, mais au moins d'avoir été formé, idéalement de la meilleure école, mais d'avoir été formé puis d'avoir des assurances de travail. Ça va vraiment mettre les bonnes bases pour la profession. Et donc, on est très heureuse. On a des hyper beaux groupes, des belles clientèles. Chaque année, j'ai le bonheur de venir faire ça.
Et alors, vous avez aussi sorti un livre, qui sort là tout juste en Belgique la semaine prochaine, oui. C'est ça? À qui est-ce qu'il s'adresse? Est-ce que c'est pour des professionnels ou des futurs professionnels ou bien c'est vraiment pour le grand public?
Ben avec les éditions Pré Daniel qui nous ont publié, on a comme pensé que c'était intéressant de faire découvrir la zoothérapie. Donc on a vraiment veillé à ce que ça puisse s'adresser au grand public et à tout le monde. Mais je veux dire, c'est quand même important pour nous de sensibiliser les professionnels. Donc ça s'adresse aussi aux professionnels qui auraient envie de comprendre il s'agirait de quoi. Il y en a beaucoup qui se demandent. Mais en fait, moi, j'ai un chien extraordinaire, je l'amènerais bien dans mes séances de logopédie. Mais comment est-ce qu'on fait? Ben, en fait, on se forme avec nous et puis on le fait. Mais c'est extraordinaire la différence que ça fait dans sa pratique professionnelle. Donc, je dirais que ça s'adresse à tout le monde.
Mais on a veillé beaucoup aussi à donner des exemples hyper concrets, très nombreux, avec plusieurs clientèles, plusieurs animaux, justement pour que monsieur, madame, tout le monde comprenne. Parce qu'en fait, ce qui est un peu frustrant, c'est que les gens pensent que la zoothérapie, c'est flatter un chien, lancer une balle, puis ça va aller mieux. Ben non, c'est pas ça du tout. Donc, et Mélissa et moi, on a veillé à bien vulgariser, par exemple, si on travaille le langage, par exemple, si on travaille l'anxiété, par exemple, si on travaille en réadaptation, par exemple. Donc, il y a vraiment des exemples concrets. On a mis beaucoup d'images. On a été choyés, on s'est battu un peu pour avoir nos images en couleur. Donc, le livre est très beau. C'est simple d'approche, mais en même temps, c'est clair. Et monsieur, madame, tout le monde vont s'y retrouver, les amoureux des animaux, mais les professionnels vont pouvoir faire comme « OK, j'y vais, oui ».
Merci à toutes les deux d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et d'avoir permis aux auditrices et aux auditeurs de découvrir la zoothérapie. Pour conclure cet épisode, nous avons demandé de choisir une citation qui pourrait résumer notre conversation. On va les découvrir ensemble. Audrey, vous avez choisi une citation de Marc Bekoff. Peut-être que vous pouvez nous expliquer qui il est.
Donc, Marc Bekoff est un spécialiste mondial du comportement animal. Il a travaillé aussi avec Jane Goodall, qu'on connaît bien sûr. Donc, c'est un biologiste aussi. Et j'adore, en fait, son approche de l'animal, du bien-être, de réfléchir à ça. C'est vraiment une valeur qui est chère pour nous. C'est très drôle parce qu'en fait, sans se consulter, moi, j'ai choisi une citation sur le bien-être animal, puis Mélissa plus psycho. Et donc, normalement, c'est l'inverse, donc c'est amusant. Donc, je la trouve pertinente, nuancée. J'aime beaucoup leur travail. Oui. Quand les animaux expriment leurs sentiments, ils les expriment comme l'eau qui coule d'un bec. Les émotions des animaux sont brutes, non filtrée et incontrôlable. Leur joie est la plus pure et la plus contagieuse des joies et leur chagrin le plus profond et le plus dévastateur. Leur passion nous met à genoux, de joie comme de tristesse.
Merci Audrey. Mélissa, on va peut-être alors vous laisser lire votre citation qui est de Boris Levinson. Vous pouvez aussi nous expliquer un peu qui il est.
Oui, Boris Levinson, c'est un psychologue américain qui a été un peu le précurseur dans le monde de la zoothérapie. En 1953, il a découvert accidentellement, c'est ça qu'on dit souvent de lui, les bienfaits de la présence d'un animal, c'était son chien dans son cas, auprès d'un enfant autiste. Donc c'est ça, c'est quelqu'un qui a vraiment découvert les bienfaits et qui a commencé les recherches, commencé à intégrer l'animal auprès de ses patients. J'imagine qu'à l'époque, on ne parlait pas encore de zoothérapie, mais c'est grâce à lui que les portes se sont ouvertes. Donc, on le remercie. Et donc, j'ai choisi une citation qui se trouve en fait sur mon site internet qui me parlait beaucoup. L'animal ne se nourrit pas d'attentes idéalisées envers les humains. Il les accepte pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'ils devraient être.
Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Merci à vous, Mélissa et Audrey, pour cet agréable moment d'échange. Toutes les sources ou infos pratiques dont nous avons parlé sont disponibles en description. Nous nous retrouvons dans un prochain épisode. Aidez-nous à faire connaître les voix de Vinci en partageant ce podcast.